construire un projet, que ce soit un projet entrepreneurial ou associatif ou autre, pour toucher les gens, pour améliorer quelque chose, pour résoudre un problème, tout ça, c'est des bonnes raisons, en fait, de vouloir étendre et grandir.
Chère auditrice, cher auditeur, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de La Machine à Sens, un podcast 100% dédié aux entreprises à mission. Dans La Machine à Sens, nous allons à la rencontre de dirigeants, de managers de mission qui nous expliquent leur motivation et leur cheminement vers la société à mission, mais également des experts et des auteurs qui viennent éclairer un sujet social, sociétal ou environnemental. Je m'appelle Vivien Pertuzot et j'ai le plaisir d'animer ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Soublet, cofondatrice de Ma Bonne Étoile. Vous connaissez probablement plutôt ses marques, notamment Squeeze et peut-être Feel Good. Elisabeth n'a pas le profil type de l'entrepreneur. Elle s'y est mis plutôt sur le tard, sans avoir d'expérience dans la création ou la gestion d'entreprise, mais avec une idée claire, précise et toute simple a priori. Plutôt que de jeter des montagnes de pots de compote, pourquoi ne pas avoir un contenu réutilisable? Idée a priori simple, mais qui a demandé pas mal de boulot, vous verrez. Avec Elisabeth, on est revenu sur le développement de l'entreprise, non seulement pour trouver les bons partenaires industriels, mais également les bons partenaires financiers lorsqu'ils ont fait leur première levée de fonds. On a également beaucoup parlé d'impact, mais vraiment beaucoup, parce que c'est une notion qui rend chère à Elisabeth, qui siège au board d'Ubilab en France. Et enfin, on a évoqué son rôle de mère de 5 enfants, de femme dirigeante et un petit peu de la gymnastique quand un couple gère 5 enfants et une entreprise ensemble. Vous verrez, c'est assez intéressant. Je trouve qu'elle incarne vraiment une forme d'entrepreneuriat humaniste et contemporain, bien dans sa tête et droit dans ses bottes. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Vivien.
Merci beaucoup de me recevoir dans vos locaux ici à Verneuil, donc en banlieue parisienne. C'est assez étonnant comme type de locaux, hein, parce qu'on est dans un immeuble d'habitation. Et donc là, vous avez pris la moitié de l'immeuble pour en faire vos bureaux. Ça en fait
plus
quelque chose d'assez convivial, finalement, comme installation.
Merci d'être venu jusqu'à chez nous.
Alors, je vais peut-être commencer par une petite présentation de toi et je te laisserai la possibilité d'élaborer s'il y a des choses que j'ai oubliées. Elisabeth Soublet, donc, tu es originaire d'Austin, au Texas, une ville qui m'est chère parce que j'ai fait une partie de mes études là-bas. Et je trouve que en regardant un petit peu ta bio, tu incarnes parfaitement le slogan de la ville, Keep Austin Weird. Dans le sens où t'as à la base t'as une double formation en sage-femme, professeur des écoles. Aujourd'hui, avec ton mari, tu diriges donc une entreprise en France, avec comme point de départ une sorte de culpabilité de jeter d'innombrables pots de compote pour que tu donnais à tes enfants, parce qu'en plus tu as 5 enfants, donc ça fait de toi quand même une femme, probablement, enfin même un couple avec des agendas bien remplis. Et on sent d'ailleurs que cette composante est vraiment très très importante dans ta vie. En 2014, donc après le déclic dont je parlais, vous avez créé Squeeze, qui est une gourde souple réutilisable pour les enfants, et de là après vous avez élargi progressivement votre champ d'action avec le credo, j'ai l'impression, du réutilisable comme fil conducteur dans tous les produits que vous avez pu créer, notamment avec les marques Feel Good et plus récemment Woost, qui a été lancé l'an dernier, hein, si je me trompe pas. Donc parallèlement, tu es une fervente partisane de l'entreprise à impact et tu fais même partie du board du B-Lab en France. Et d'ailleurs, avec Squeeze, je pense que vous deviez être une des toutes premières entreprises labellisées B-Corp en France.
Oui. Oui.
Est-ce que j'ai oublié des choses?
Non, je pense que oui. Je suis contente que tu aies repris cette citation sur la ville d'Austin, puisque moi aussi, je trouve que c'est important de rester étrange.
Alors, peut-être pour commencer, c'est vrai qu'en préparant cet entretien, alors moi je connaissais Squeeze, un tout petit peu Feel Good, pas du tout Woost, mais derrière ces trois marques, il y a une entreprise qui s'appelle Ma Bonne Étoile. Et peut-être le plus simple pour resituer situer un petit peu pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas forcément les trois marques. Est-ce que tu peux nous expliquer comment s'est faite cette évolution de cette gourde réutilisable, hein, avant de commencer, oui. On disait le terme de gourde, bon, c'est pas vraiment ça. Enfin bon, justement, oui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu l'évolution?
Oui, tout à fait. Donc, nous avons commencé avec la gourde souple pour compote et plus, squeeze, à destination vraiment des enfants, des familles, mais principalement des enfants avec des décors, donc des animaux déguisés ou nature, comme on l'appelle. Et puis, on a constaté qu'il y avait quand même aussi de l'intérêt de la part, justement, des parents, mais qui parfois nous racontaient des choses comme « Alors, je suis papa, je donne le lion à mon petit Amaury de 2 ans, mais quand je fais du jogging, j'aime aussi lui emprunter, mais je mange comme ça, en cachant le décor, puisque quand même, on ne pouvait pas faire aussi pour les adultes. Donc, on a fait des expériences aussi sur des décors d'adultes qui ont donné lieu aussi à une gourde souple Feel Good, donc sur une deuxième marque qui est plus ouverte et destinée aux adultes et toute la famille. Donc, Feel Good, le jeu de mots en anglais de rempli bien.
Parce que c'est Feel Good, F-I-2-L, hein, pas exact. Feel Good.
Oui, exact. Mais ça sonne super en français. Donc, on est dans nos noms, en fait, de marque, on est que dans des jeux de mots, quelque part. Et Feel Good, donc, toujours dans ces mêmes réseaux donc, de distribution, les magasins bio, les magasins vrac, Art de la Table, mais une marque plus ouverte sur les âges et peut-être aussi un petit peu plus... plus ouvert même sur l'usage, puisque squeeze, donc le mot, la sonorité vient de l'anglais presser, to squeeze, et feel good, donc c'est remplir, c'est encore plus ouvert.
Oui, parce que là, il y a différentes choses, hein. il y a des paquets pour les bento.
Oui, exact, il y a un bento qui est fabriqué en matière végétale en France. Notre dernière nouveauté, c'est des sacs pour le vrac, donc des sacs aussi avec bouchons et zip réutilisés pour ses courses en vrac. Et bientôt aussi une gourde, mais une vraie, en verre.
Et après, Woost, donc ça, c'est ce que tu m'expliquais, en fait. Woost, c'est encore un autre créneau, parce que là, vous voulez vous ouvrir à la grande distribution.
Oui, exact. Depuis le début de notre projet, on a eu de l'intérêt, au départ et après, tout à travers d'autres types de magasins que des magasins bio. Et on ne se sentait pas exactement prêt à répondre à cette demande. Jusqu'il y a très récemment, quand on a créé la marque Woost, qui est une marque donc destinée pour les grands et moyens surfaces, avec une gourde qui remplit la même fonction, qui est fabriquée dans les mêmes conditions, même qualité, même usine très exactement en Suisse, mais avec une forme légèrement différente. Donc elle est un tout petit peu plus grande en termes de sa contenance, un peu plus grande, et un décor aussi un peu différent, mais aussi tout aussi sympa, fait avec un street artiste Dunkerquoise, que je salue, qui s'appelle Miko Umi.
Ah, très bien, j'avais ignoré ça, parce qu'en fait, c'est un petit détail, mais sur la newsletter de la machine à sens, généralement, j'illustre toutes mes missives, oui, avec du street art, donc j'ignorais.
Oui, il est super, il a vraiment un univers très ludique, avec un petit bonhomme, tête ronde, qui, sur nos Woosts, en fait, explore différents environnements, montagnes, mers, pique-niques, etc.
Il y a un élément, c'est intéressant, là tu parlais de ce street artist-là, mais même qui est assez, je pense, constitutif de toute l'aventure que vous avez construit tous les deux avec Squeeze au départ et depuis, c'est qu'il y a une vraie logique partenariale. On sent que, déjà, vous cherchez, donc pour la production, au départ, tout a été fait avec un partenaire en Suisse.
Oui.
Peut-être c'est intéressant que tu nous racontes un peu cette histoire, parce que c'est vrai, oui, qu'en soi, on se dit, bon, vous n'avez pas d'usine, comment vous avez réussi à trouver des partenaires industriels, à faire en sorte qu'ils vous fassent confiance.
Oui. Donc, au tout début, c'était une vraie challenge, puisque qu'est-ce que je cherchais à faire? Je cherchais finalement à quelque part hacker un packaging jetable et le rendre donc réutilisable. Mais je parlais à des personnes, à des usines, à des équipes qui avaient l'habitude en fait de produire du jetable en grande quantité. Et moi, je les appelais pour savoir si c'était d'accord pour produire plus petite quantité et de le rendre réutilisable. Donc, c'était toute une explication à chaque fois que j'appelais quelqu'un. Malheureusement, la plupart du temps, au début, c'était « Mais vous rigolez, madame, c'est gentil, votre demande de commander 50 000 et nous, on ne sait pas faire moins que 500 000 » jusqu'à ce que je tombe sur vraiment la bonne partenaire qui avait la bonne taille, un petit peu comme... boucle d'or peut-être, on a trouvé l'usine parfaite pour nous, qui était d'accord et qui croyait aussi au projet, puisque rendre ce genre de contenant packaging réutilisable impliquait donc associer ce zip avec le bouchon, chose qui n'avait jamais été fait dans cette usine auparavant. Donc c'était aussi un investissement et un risque en fait de leur part de croire dans le potentiel en fait de cette solution, de parler aux familles.
Oui, parce que là, en plus, c'est, je trouve que c'est hyper intéressant parce qu'on se trouve dans une situation où vous êtes en création, vous n'avez pas de clients, des convictions,
oui.
Mais pas de clients. Vous arrivez vers un partenaire industriel qui fait du 100% jetable. Vous leur dites, je vais vous commander beaucoup moins que ce que vous avez l'habitude. Deux, je vais vous demander de faire différemment, donc d'adapter votre ligne de production pour nous. Et trois, faites-nous confiance.
Oui.
C'est quand même assez culotté quand même quand on y repense.
Oui, voilà. Mais comme dit Eleanor Roosevelt, la vie est une aventure époustouflante où elle n'est rien. Life is a daring adventure or it's nothing. C'était la phrase originale. Et je crois en ça. Et je crois qu'il y a toujours pas de mal à demander. Le pire qu'on va entendre, c'est no. Peut-être on va rigoler aussi, mais ça, c'est pas grave. et là, pour le coup, on s'est trouvé avec un partenaire qui croyait. Et comme tu disais, c'est ça aussi qui est très important dans ce qu'on fait et dans la conception que nous avons du monde des affaires. À la base, le mot commerce, c'est quoi? C'est l'échange entre les hommes, entre les personnes. Et cet échange... c'est toujours mieux si ça se passe par du partenariat, pour du donnant-donnant, et c'est pas simplement deux personnes qui essaient d'avoir d'être au-dessus de l'autre, etc. Mmh. Donc c'est super important cette conception en fait du partenariat.
En préparant l'entretien, il y a un élément qui m'a frappé, c'est que j'ai l'impression que finalement l'idée de saisir des opportunités commerciales, c'est une chose, ça oui. L'idée de grandir pour grandir, en revanche, c'est pas quelque chose qui est vraiment très important pour vous. L'idée, c'est plutôt de rester à la taille humaine, mais l'idée de grossir pour grossir, c'est pas très important, voire c'est quelque chose que vous voulez pas nécessairement.
Non, pas du tout. Et c'est... Je pense que ça vient aussi de mon expérience d'avoir grandi aux États-Unis. Et surtout dans le sud, d'où je viens, du Texas. Là, c'est des villes qui ont grandi pour faire de la voiture, où tout était standardisé. Tu vas dans n'importe quelle ville du Texas, tu vas retrouver les mêmes restaurants, les mêmes magasins, les mêmes tout, et ça apporte un confort, mais c'est aussi pas très intéressant. Et créer une chaîne pour créer une chaîne, pour exporter, pour faire, comme tu dis, pour faire plus grand, pour faire quoi au final? Moi, même petite, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui manquait, en fait, dans cette vision du monde. Construire un projet, que ce soit un projet entrepreneurial ou associatif ou autre, pour toucher les gens, pour améliorer quelque chose, pour résoudre un problème, tout ça, c'est des bonnes raisons, en fait, de vouloir... étendre et grandir. Mais la croissance pour la croissance, on a tous compris aujourd'hui, ou je pense que tous tes auditeurs, au moins, je peux leur souhaiter, pour le coup, ont compris que c'est plus le but à un moment. Et c'est peut-être vraiment là l'histoire, en fait, de l'anthropocène. L'anthropocène, on dit en français.
Ouais.
L'homme, en fait, il a assez. Et il faut qu'on commence à dire comment est-ce que, du coup, on fait pour grandir un peu moins vite, là.
Et si on regarde, justement, les alors, sans dire que vous cherchez à grandir pour grandir, mais, en fait, aujourd'hui, Squeeze, il y en a pas qu'en France. Ça s'est aussi, c'est quoi, dans une dizaine, quinzaine de pays, même un peu plus, je crois, maintenant.
Oui, en Europe principalement, oui.
Et comment ça s'est fait, en fait, cette croissance vers l'international? Est-ce que c'est par opportunisme? On est venu vous chercher
Il y avait un petit peu les deux. On a participé relativement rapidement à des salons européens aussi, notamment un salon qui s'appelle Kinderjungen en Allemagne, dans la périculture. Et c'est comme ça qu'on a rencontré notre distributeur en Allemagne, une chaîne de parapharmacie qui s'appelle DM. Mais on n'a pas, au tout début, on n'a pas forcément cherché à faire de l'export, mais toutefois, le marché de l'Europe est une opportunité. Nous, on est en âge, en fait, de se souvenir ce que c'était avant l'euro et avant tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a tout son sens de dire avoir un marché en France, aussi être ouvert sur l'Europe. Et après, pourquoi pas plus loin, mais ça pose d'autres questions aussi.
Oui, on pourra y revenir, oui. Mais c'est vrai qu'après, il y a les questions de produire le plus localement possible,
exact.
Aussi, qui sont quand même assez constitutifs de l'entreprise oui. Aujourd'hui. Et par rapport au réseau de distribution, parce que là, c'est vrai que je suis parti tout de suite vers l'étranger, mais oui. Les réseaux de distribution en France, comment ça s'est fait? Parce que c'est vrai qu'en soi, vous êtes hyper dépendant du vrac, du fait qu'il y ait des magasins qui vendent du vrac, parce que, de fait, vos contenants permettent de mettre du vrac dedans. Donc comment ça s'est fait, est-ce qu'il y a une stratégie de distribution? Est-ce que vous avez trouvé des partenaires avec lesquels tout de suite ça a cliqué ou...
Oui, et c'était certainement donc en 2014, le filière bio, puisque le filière vrac n'existait même pas encore.
Oui, c'est vrai.
On n'avait même pas le mot en bouche. Hein. Ça existait un petit peu dans des magasins bio, mais ce n'était pas un truc à part. Et déjà en 2014, dans les réseaux bio, il y avait cette sensibilité vis-à-vis en fait, des déchets et spécifiquement aussi sur ce produit, les gourdes de compote, dont les marques sont plus connues en grande surface, pour ne pas les nommer, mais qui existaient aussi dans des magasins bio. Il y avait beaucoup de clients et même de responsables de magasins qui se posaient la question de « est-ce OK, en fait, qu'on a ce genre de produit dans un magasin bio ?» Est-ce qu'on est confortable avec ça? Donc, on a assez facilement pu expliquer l'intérêt du produit aux différentes chaînes de magasins et aux employés directement, parfois. Et aussi offrir la possibilité de faire, même déjà, c'est un concept un peu hybride, mais même l'hybridisation dans l'hybridisation, je m'explique, c'est-à-dire que on peut aussi acheter de la compote en bocal et simplement donc remplir une squeeze au fur et à mesure et on se retrouve à la fin qu'avec un grand bocal en verre dont on peut se servir pour faire d'autres choses et qui crée moins de déchets à la fin que rester donc en compote individuelle jetable. Donc sans avoir recours à chaque fois à cuisiner, à faire sa propre compote, mais ça peut être aussi un smoothie. on a tout de suite vu l'intérêt et même des fabricants bio de compote, de purée de fruits, nous ont appelés pour construire des partenariats puisque ça faisait sens pour eux aussi.
D'accord. Et donc c'est vrai que là il y a quand j'ai préparé, je le disais tout à l'heure, je connaissais Squeeze, un petit peu Feel Good. En revanche, je connaissais pas Woost. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est connu de personne, c'est Ma Bonne Étoile qui est derrière. Et je me suis dit, mais pourquoi finalement il y a Ma Bonne Étoile et trois marques?
Oui. Donc quand on a créé la société, c'est pas que j'avais forcément des ambitions de créer plein de marques derrière. Mais j'avais reçu le conseil tout de même de regarder les possibilités de ne pas appeler l'entreprise et la marque pareil au cas où un jour on veut changer de marque ou vendre une marque ou créer d'autres marques, etc. Donc, j'avais déjà Squeeze et il fallait que je trouve le nom de l'entreprise. Et je ne sais pas comment, Ma Bonne Étoile, ça me semblait bien puisque... Comme tu disais, c'est un projet que j'ai commencé tout seul, mais que très vite, j'ai construit avec mon partenaire dans la vie, Nicolas. Et on a mis tous nos œufs dans le même panier. Donc, il nous fallait vraiment une belle étoile pour nous guider dans tout ça.
Et après, en fait, ma bonne étoile, on a commencé à en entendre un petit peu parler lorsque vous avez fait votre levée de fonds. Donc, on était en 2020.
Oui.
Et ça, c'est une étape qui a été hyper importante pour vous parce que bah, déjà, quand on fait sa première levée de fonds, c'est toujours une étape importante. Mais en plus, bah, comme vous aviez déjà des principes qui étaient assez ancrés dans l'entreprise, je crois que c'est 2% du chiffre d'affaires annuel est reversé à des associations et vous précisez 2% du chiffre d'affaires, pas des bénéfices.
Oui, oui,
donc même quand il n'y a pas de bénéfices, bah, y a quand même 2% du chiffre d'affaires qui vont à des associations. Donc il y avait aussi dans cette levée de fonds une volonté de trouver les bons partenaires. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, déjà pour... par rapport au fait que vous n'aviez pas d'expérience de levée de fonds et comment vous avez trouvé les bons partenaires et puis après on continuera sur aujourd'hui ce qu'il en est.
Donc quand on a décidé d'ouvrir notre capital et de chercher des partenaires pour nous aider à nous développer, une chose qui dans notre milieu aujourd'hui on a tous son opinion là-dessus, il y a des personnes qui disent faut pas le faire, faut le faire, ok. Nous, notre croyance, c'était que c'était important de faire avec des partenaires qui partageaient nos valeurs et qui cherchaient du coup d'abord l'impact, d'abord et, voilà, entre d'abord et. Donc, nous avons cherché des investisseurs, qu'on peut appeler investisseurs à impact, et ça grâce à un partenaire, donc spécialiste dans la levée de fonds, qui nous est très cher. Alexis de Sora Equity, et c'était à travers lui qu'on a pu trouver les bons fonds câblés comme nous, avec les mêmes intentions, les mêmes objectifs, et sans lui, ça aurait été 1000 fois plus dur. Je ne sais même pas si on serait arrivé, mais certainement 1000 fois plus dur. C'est pas rien de savoir mettre ensemble les bons projets avec les bons investisseurs.
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a c'est quelque chose qui revient assez fréquemment dans les entreprises à impact qui se disent bon, alors est-ce que j'ouvre ou pas ? Effectivement, il y a ce débat éternel d'ouvrir ou pas son capital à des fonds d'investissement par-dessus le prix et de se dire bon, il faut que j'arrive à trouver des investisseurs qui sont. Câblés comme moi, alignés, on peut s'entendre, on a vraiment la même compréhension du business et parfois trouver un partenaire qui peut identifier et faire les mises en relation et accélérer un petit peu le processus, c'est probablement une bonne idée, je pense.
Oui, et c'était aussi en partie grâce à la communauté B Corp, puisque Alexis, comme nous, est certifié B Corp et on s'est rencontrés comme ça à une soirée à la mairie de Paris. Il y a quelques années, on s'est assis les l'une contre l'autre. J'avais mon petit pins, mon petit badge B Corp. Il s'est retourné en disant « Ah, vous êtes B Corp, moi je suis en train de faire la certification en ce moment. » Voilà. Et il se trouve aussi qu'un de nos deux investisseurs, Coninco, est aussi un B Corp en Suisse. Et on s'est rencontrés à un grand réunion européen à Amsterdam il y a quelques années. Donc, la communauté aussi de chercher aussi des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, ça aide aussi.
Mais ça, on y reviendra parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé aussi. Et puis, c'est intéressant parce que je crois énormément à cette complémentarité qu'il peut y avoir entre des membres d'une même communauté. Et peut-être pour terminer sur la levée de fonds, donc, parce que là, on a parlé de ce que vous recherchiez chez des investisseurs. On est près de 2 ans après la levée de fonds maintenant. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? À part de financement, évidemment.
À part le financement. très concrètement, nos deux investisseurs, Coninco et MyF Impact, nous ont apporté leur... j'ai envie de dire un mot. En fait, comme notre premier partenaire industriel, ils croient en nous. Ils ont l'espoir aussi en notre projet, dans l'importance de la potentielle de notre impact. Et ils nous challengent aussi autant sur... voilà, des questions un peu typiques, en fait, dans ce genre de relation de gestion, que sur nos indicateurs d'impact et comment on fait, en fait, pour faire grandir notre impact en même temps que le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est... on peut aussi parfois chercher des investisseurs qui ont donc une connaissance dans un certain domaine ou milieu. Et là, c'est pas exactement le cas de ces deux partenaires-là. Toutefois, ils sont très importants pour nous puisqu'ils nous challengent et nous aident à développer notre impact positif. Moi, j'explique souvent que dans ce contexte mondial, les communautés comme B Corp ou les sociétés à mission ou d'autres, les ESS, on joue gentil. Mais c'est plus rigolo quand on joue ensemble. Et il faut qu'on soit plusieurs pour créer une communauté, pour que ça marche. Et le but étant, un jour, de changer les règles. Quand ça serait la majorité, en fait, de joueurs qui jouent comme ça, les règles vont changer.
Dans la suite de l'épisode, nous avons beaucoup échangé sur l'impact. Vous verrez, il y a eu quelques petits désaccords. Et également la manière dont l'entreprise a mis cette notion au cœur de son activité et de son développement. Bah ça fait parfaitement la transition justement avec cette dimension liée à l'impact. Parce que c'est quelque chose que j'ai remarqué en reprenant des articles qui sont un petit peu plus anciens. Souvent c'était toi qui prenais la parole, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de travailler sur certains indicateurs on a évité de l'utilisation, le temps de déchets, etc. Ça, c'est quelque chose qui a toujours été très, très ancré, cette notion d'indicateur, de montrer, de démontrer l'impact de l'entreprise.
Oh oui, oui. C'était important dès le départ. Pour plusieurs raisons, pour nous, pour comprendre que ce qu'on fait a du sens et que ça marche. Important aussi pour nos clients de comprendre en quoi ils participent à travers l'utilisation de nos produits qui demandent un certain effort par rapport à d'acheter et jeter, qui reste toujours une possibilité. Pour nos revendeurs aussi, puisque après ce qu'on peut appeler communément l'RSE, l'impact, c'est quelque chose qui est devenu de plus en plus important pour toute entreprise. Les distributeurs, comme les fabricants, comme nous, comme d'autres types de structures. Et donc, ça nous permet une communication encore plus concrète, je pense. Pouvoir chiffrer son impact, c'est primordial, sinon ça reste un petit peu imaginaire quelque part. J'espère avoir un impact positif. Si j'arrive à le chiffrer, c'est sûr que c'est encore mieux.
Et est-ce que tu as vu une évolution de la manière dont vous mesuriez votre impact depuis presque 10 ans maintenant?
Oui. Au début, on tentait en fait de le mesurer en poids. Et en toute honnêteté, une gourde de compète, en fait, elle pèse pas très très lourd. Elle pèse à peu près 8 grammes. Donc le chiffrage en poids, bien qu'à un moment on est arrivé à 50 éléphants, hein, c'est pas mal quand même, mais c'est pas aussi percutant que de dire aujourd'hui on est à des centaines de milliers, des millions de gourdes de compote. Éviter donc le fait de les jeter. On a tenté donc différents indicateurs et on a compris que celui-là, c'était peut-être celui qui était le plus parlant.
Et ça, les investisseurs l'ont compris ?
Oui, mais les investisseurs, du coup, nous demandent plus que ça. Dans une analyse de cycle de vie d'un produit classique, on va regarder donc les émissions de gaz à effet de serre, on va regarder l'usage de l'eau. Il y a certains indicateurs d'impact sur le volet social et tout ça, on regarde. Ce n'est pas forcément des choses sur lesquelles on communique aujourd'hui, mais ils restent tous aussi importants dans l'analyse de cycle de vie des produits.
Et j'imagine que ce qui a permis aussi de mesurer un petit peu tout ça, ou en tout cas de cadrer le type de mesure, c'est de passer B Corp et de faire le BIA, l'Impact Assessment du B Corp. Ça, ça a été vraiment très utile pour vous ?
Ah oui, super utile. On entend quelques personnes aujourd'hui dire que c'est une certification pour des grandes entreprises, puisqu'il y a quelques grandes entreprises en fait qui le portent aussi. Pour moi, c'est vraiment quelque chose pour tout le monde. Déjà, c'est t'es à la taille de l'entreprise. On n'a pas exactement les mêmes questions quand on est petit que quand on est grand. Il y a une base commune, mais c'est quand même adapté, heureusement. Et nous avons fait, en 2015, quand on était trois dans la société. Donc, on était tout petit. Et ce que ça nous a permis de faire, en fait, c'était d'avoir vraiment un chemin de fer, un roadmap devant nous pour nous aider aussi au fur et à mesure de notre développement de s'aiguiller dans les bons choix. Il y avait certaines choses qu'on ne pouvait pas encore faire, mais on s'est dit, ah, dans un an, dans deux ans, on peut peut-être faire ça. Et quand on a changé, donc quand on a dépassé 10 employés, on a changé donc de catégorie par rapport à ce questionnaire et on a compris aussi quelles étaient les questions qui étaient posées à des structures un peu plus grandes.
Ma bonne étoile est passée société à mission au moment de l'ouverture du capital.
Oui.
Et là, il y avait une raison particulière de le faire à ce moment-là?
Oui, il y a une raison très pratique. C'est que comme ça, on n'était pas obligé, mais on touche seulement une fois au statut. Voilà. Mais deuxième, c'était puisque ça venait de sortir. Le décret en fait, d'application est tombé au printemps 2020. Donc, quand on a fait notre levée de fonds, on a bouclé pendant l'été et je crois que les nouveaux statuts étaient déposés quelques mois après. Mais tout ça s'enchaînait assez naturellement, je dirais.
D'accord, donc il y avait vraiment cette volonté déjà de passer société à mission, c'était pas soit pour se protéger de certaines demandes des investisseurs ou à l'inverse, ouais. Une demande des investisseurs de passer société à mission, là c'était, c'était naturel pour vous et en fait...
Oui. Bon, surtout que c'est une extension aussi de ce qu'on faisait déjà depuis 2015 avec B Corp, c'est pas connu, mais les B Corp étaient le plus grande communauté d'entreprises en France à changer leur statut. Dès 2015 à devenir donc des entreprises à mission en insérant une raison d'être qui nous est tous commun de rechercher toujours à travers nos activités un impact positif et significatif sur nos parties prenantes et on garde ça aujourd'hui sur cette mission permet d'aller un cran plus loin ou si ce n'est pas plus loin simplement plus loin dans votre mission personnelle. Je ne pense pas que c'est plus loin, puisque comment on peut aller plus loin qu'un impact global positif ça serait le summum, mais ça nous invite à être plus spécifique, en fait.
Est-ce que tu peux rappeler la raison d'être de Ma Bonne Étoile, justement?
Oui, donc la raison d'être de Ma Bonne Étoile, c'est d'apporter, alors je vais le paraphraser quand même un petit peu, mais d'apporter au plus grand nombre donc, des solutions de réduction de déchets quotidien et pratique. Donc vraiment aider le plus grand nombre de personnes à changer leurs habitudes de consommation pour changer vraiment la quantité de déchets produits et d'envisager une future sans déchets. Et ça, c'est toute une explication qui est très actuelle. C'est pas forcément dans tes questions, donc je m'éloigne un petit peu, mais la conception de l'économie circulaire, elle est assez vague aujourd'hui encore, je trouve. On a quand même établi une hiérarchie dans les solutions, mais on n'arrête pas de traiter tout comme si c'était pareil. Recyclé, compostable, réutilisable, c'est tout pareil. C'est pas tout pareil.
Oui, c'est vrai. Ouais.
et donc nous, quand on parle en fait d'une future sans déchets, c'est vraiment sans déchets. C'est pas sans des déchets qu'on ne recycle pas. C'est vraiment sans déchets. En sachant que ouais, le mot sans déchets, avec le moins de déchets possible.
C'est comme le plein emploi. Hein. Le plein emploi, c'est en dessous de 5%. Hein. Donc, c'est pas tout le monde a un emploi. Hein. Donc, c'est vrai que le sans déchets, ce serait probablement difficile de faire du zéro déchet pour littéralement tout. Mais, et comment vous avez construit la mission? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait uniquement vous? Vous avez associé d'autres parties prenantes
Donc au tout début, puisqu'on n'était que tous les deux, c'était que tous les deux. Après, quand on a fait la première certification B Corp, avec notre seul employé avec nous, on a reconstruit donc la raison d'être, puisque c'est la première question dans le questionnaire BIA. C'est quelle est votre raison d'être. Et après, il y a toute une série de questions qui sont très intéressantes, de est-ce que votre raison d'être parle d'un objectif environnemental? Est-ce qu'il parle d'un objectif social? Il y a des petites questions qu'on va venir vous poser qui vont aussi vous faire changer vos raisons d'être si jamais ce n'était pas inclus avant. Ok, j'ai compris, je vais changer. Donc, on a fait ça ensemble. Et après, la dernière fois qu'on a travaillé, pendant notre processus de levée de fonds, on a travaillé avec une autre partenaire B Corp, l'agence Pixelis, qui nous a aidés à créer un logo aussi pour l'entreprise corporate, grand mot, hein. Ma bonne étoile, et aussi retravailler l'énoncé de mission, et là, dans un processus collaboratif de co-création avec les équipes, avec l'équipe managériale, et c'est vrai qu'on aurait pu, mais je crois pas que, très honnêtement, à ce moment-là, on a consulté des parties prenantes extérieures, exactement, peut-être à travers notre... On a un comité, en fait, de consultatif, donc oui, un petit peu, mais on a pas non plus... on a voulu que ce processus soit assez... pas prendre pas trop longtemps non plus. Si je peux me permettre... Alors, on peut faire plein de choses, mais je trouve qu'aujourd'hui, on fait peut-être un petit peu trop sur prendre des années à énoncer sa mission avec toutes ses parties prenantes et tous ses employés. Ok, mais l'important, c'est ce que tu fais derrière. On sait qu'il y a des entreprises qui ont des très beaux annonces de mission et qui les ont déjà depuis 50 ans, et les résultats ne sont pas là derrière. Donc, oui, c'est important de travailler sa mission et de rendre cette processus participatif, mais ça ne fait pas un tout. C'est que le début du travail.
Oui, non, mais là, je partage complètement, parce que c'est vrai qu'on peut passer énormément de temps, et je pense que c'est important, notamment pour les entreprises qui n'ont jamais véritablement fait ce travail-là, de passer du temps sur le choix des mots, de consulter un maximum de personnes, tout en limitant quand même, hein, je suis d'accord avec toi. Mais après, il y a le jour d'après, la semaine d'après, le mois d'après, l'année d'après, et c'est faire vivre cette mission à l'intérieur de l'entreprise, et c'est vrai que là, c'est presque là que le travail le plus difficile peut commencer. Quoi, pour certaines personnes qui peuvent parfois avoir passé beaucoup de temps en amont et oublier que l'aval est presque plus important, voire plus important d'ailleurs pour l'avenir de l'entreprise. Oui. Et justement, parce que là ça fait un peu plus d'un an et demi maintenant que vous êtes passé société à mission, alors vous restez une petite entreprise, hein, vous êtes une petite vingtaine aujourd'hui, comment est-ce que vous pilotez la mission en interne?
Donc, nous, on a triché, on n'a pas triché, mais on a mis quand même un de nos objectifs statutaires, c'est de garder les certifications B Corp. Donc, on a réussi à faire le 2 en 1. Et donc, on les associe totalement. Les indicateurs de mission qui sont dans nos statuts sont aussi des indicateurs qui sont présents dans la certification B Corp. Et ils sont des indicateurs qu'on a donnés aussi à nos investisseurs, qu'en faisant partie de notre pilotage. Donc pour nous, c'est un tout. On n'a pas fait le choix aujourd'hui de créer un comité de mission. C'est peut-être quelque chose qu'on va faire dans un futur. Pour l'instant, on a une personne identifiée dans la société comme est permis par la loi PACTE, qui est référent de mission et qui porte aussi le projet B Corp. Mais avec l'implication de plein d'autres personnes, et toujours avec un questionnement, avec une consultation de divers et variés parties prenantes. Mais la seule chose, une des autres choses où je me pose des questions parfois par rapport à la société à mission, c'est que cette comité de mission, elle peut être vraiment super, comme elle pose aussi un risque de garder la mission à l'extérieur de l'organe principal de décision. Je m'explique. Avant, on avait des comités RSE. Dans certaines sociétés, je vois leur comité de mission un peu comme le comité de RSE 2.0. Mmh. Tout est comme on le traite. Ça reste un comité consultatif qui va porter un avis sur l'efficacité, donc des moyens mis en œuvre pour obtenir la mission. Toutefois, il faut que cette mission soit incarnée par le COMEX, par les dirigeants, pour les instances décisionnelles de l'entreprise. Donc, je vois quand même un petit risque de dissociation dans certains cas. Et pour nous, nos missions font partie du descriptif du travail, du contrat de travail de chaque personne qui rentre dans notre société. Donc, il ne peut pour nous pas être plus au centre. Et peut-être pour cela, je ne sens pas aujourd'hui vraiment un besoin de créer un comité de mission extérieur. Puisque pour moi, il est toujours dedans. Mais on va avoir des opinions différentes là-dessus. Et j'avoue qu'il y a des comités de mission, surtout pour des très grandes structures. Celle de Danone, elle est incroyable. Il y a trois Nobel lauréats, je crois. Et certainement, ils apportent un super critique.
Oui, non, là, pour le coup, je pense qu'il y a des avis qui peuvent diverger. Après, je te rejoins sur la nécessité que la mission soit portée par la direction générale, par le COMEX ou CODIR, peu importe le type de structure qu'il y a dans l'entreprise. Après, c'est vrai que le comité de mission, effectivement, un avis consultatif. Et moi, ce que je remarque, c'est que souvent, le comité de mission, à la différence peut-être de souvent des comités RSE, dans les entreprises qui savent bien l'utiliser, ce qui n'est pas toujours le cas, hein, oui, effectivement, je te rejoins là-dessus, c'est à la fois un comité consultatif sur la mission, mais c'est aussi parce que ce sont souvent des personnes qui viennent de l'extérieur de l'entreprise, un moyen d'aller faire un peu de ping-pong intellectuel avec des personnes qui peuvent apporter un regard différent sur la mission, et notamment dans les comités de mission, souvent, c'est pas systématique, mais il y a un représentant de la direction générale, le président, ou le directeur ou directrice générale de l'entreprise. Donc c'est là où ça peut être vraiment intéressant. Si c'est une chambre d'enregistrement de la mission uniquement, je trouve que c'est effectivement dommage d'avoir ce type d'instance-là. Ça vient juste complexifier la gouvernance sans apporter beaucoup de plus-value. Je te rejoins complètement là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a un élément qui est assez... Alors, parce que bon, moi, j'en ai beaucoup, beaucoup analysé des missions. Il y a un élément qui m'a vraiment frappé. Après, je comprends par rapport à l'importance de B Corp dans votre structure, mais c'est le premier, parce que c'est comme ça, je ne suis pas sûr que ce soit hiérarchiquement le premier, mais le premier objectif est justement lié à on veut garder notre certification B Corp, et en plus, on veut être parmi les meilleurs.
Ouais.
Et ça, c'est vrai que c'est assez étonnant. On peut se dire, oh, c'est quand même bizarre. En soi, ça peut très bien se justifier. Mais Qu'est-ce qui vous a poussé à vraiment l'inscrire dans les statuts, hein? C'est-à-dire que si demain, concrètement, le label B Corp disparaît, vous avez un statut caduc, hein, mais... c'est pas ce que je souhaite, hein, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez dit, non, ça, on veut que ça soit inscrit dans les statuts?
Vraiment, par cette volonté que j'expliquais avant de parler de la complémentarité des deux et de l'importance des deux. Nous, on a mis rester donc best for the world, meilleur pour le monde, qui est un classement qui existe dans la communauté B Corp de ceux qui ont des scores relativement hauts dans les différentes sections. Donc, encore une fois, on dit toujours B Corp, c'est pas un concours, on cherche pas juste à avoir le... Mais on s'est dit que si c'était la peine de le mettre dans les statuts, autant se challenger nous-mêmes. Et donc, nous challenger, en fait, d'avoir un score très haut. mais pour moi, c'est important d'afficher aussi... alors, c'est peut-être un petit peu politique, j'avoue. Si vous connaissez en fait toute l'histoire de la loi PACTE et de la société de mission, il y a une grande partie qui vient du rapport, donc Nota Senar, et qui se dit très très inspirée par des statuts légaux Benefit Corporation, donc qui sont les statuts qui sont venus du mouvement B Corp aux États-Unis, mais aussi en Italie depuis 2015, le Società Benefit, aussi dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, du Canada, etc. Et je suis restée quelque part un tout petit peu déçue que dans la version finale de la société mission qui a vu le jour, il n'y a pas eu ni une obligation d'évaluation 360, ni une obligation d'utilisation de critères indépendants. Et ces deux choses ont fait qu'on ne peut pas, si on est certifié B Corp, se remettre sur le fait d'être sur cette mission pour justifier, pour répondre voilà, aux exigences juridiques de la certification, qui, j'expliquais, exige depuis 2015 qu'on change ses statuts. En Italie, c'est le cas. Si vous êtes società benefit, ça suffit. Mais puisque la société benefit aussi exige donc une évaluation, en plus de simplement les trois trucs que vous avez mis dans vos statuts, l'ensemble de vos opérations, et aussi en utilisant un standard indépendant. Une autre pente de la société de mission qui est parfois un petit peu discutable, c'est qu'on crée en fait sa propre critère. Mmh. Donc, dans un objectif de lisibilité et quelque part de comparabilité, puisque à travers ce statut, on a cherché quand même à dire voilà un moyen d'aider les décideurs publics, les investisseurs, les clients à choisir des entreprises sans critères communs. C'est un petit peu compliqué. Mmh. Je ne sais pas si tout le monde va éplucher les 140 pages de rapports de mission de X entreprises pour comprendre vraiment où est-ce qu'ils se situent. Et puis si je mets réduire mon empreinte carbone de 20% par rapport à quoi ? Encore une fois, c'est pas que ces objectifs ne sont pas bien en soi ou très importants, mais il y a un cadre de lisibilité que je crois on n'a pas encore saisi. Peut-être ça va venir. Et peut-être aussi, un petit peu pour ça aussi, je me suis dit, hein, B Corp, ça va être en fait dans ma société à mission, voilà.
Non, mais après, c'est vrai qu'il y a je pense que c'est pour ça aussi que c'est important pour les sociétés à mission les premières, hein, parce que bon, il n'y en a pas énormément en fait aujourd'hui en France, d'être très exigeante avec elles-mêmes sur la manière dont elles passent société à mission et vivent société à mission, parce que sinon ça risque de dévoyer un petit peu la qualité. Je partage ton avis. Il y a un élément dont je parlais un tout petit peu tout à l'heure, et tu l'as évoqué également sur cet aspect de communauté. Mmh. Et tu disais donc par rapport au partenaire qui vous a aidé pour la levée de fonds, pour un des investisseurs qui est B Corp aussi, j'ai l'impression que cette notion de communauté est vraiment très très forte pour toi, et l'importance de pouvoir jouer sur une communauté avec des partenaires qui sont alignés, qui ont des valeurs communes.
Oui, et ça j'explique souvent par la simple comparaison à le jeu de la vie, the game of life. Aujourd'hui, le jeu de l'économie mondiale s'appelle plus ou moins toujours Monopoly. Voilà. Et comme dans une partie de Monopoly, quand on jouait quand on était enfant ou même adulte, c'est plus rigolo en fait si on joue un petit peu gentil. S'il y a une personne sur la table qui décide de tout rafler, le jeu est fini très rapidement et personne n'a rigolé et voilà, on n'a plus envie de jouer avec celui-là. Donc moi j'explique souvent que dans ce contexte mondial, les communautés comme B Corp ou les sociétés à mission ou d'autres, les ESS, on joue gentil. Mais c'est plus rigolo quand on joue ensemble. Mmh. Et il faut qu'on soit plusieurs pour créer une communauté, pour que ça marche. Et le but étant, un jour, de changer les règles. Quand ça serait la majorité, en fait, de joueurs qui jouent comme ça, les règles vont changer. Et c'était ça aussi la mission du mouvement B Corp depuis le début. C'était de créer donc cette guide, le BIA, pour aider les entreprises à transformer leurs pratiques et aussi d'influencer vraiment le cœur de réacteur qui est donc la régulation, la législation sur qu'est-ce que c'est une entreprise et comment elle doit se comporter et quelles sont nos attentes. Donc c'est de là où venait le Benefit Corporation. Et pour moi, ça a tout son sens de dire plus on est de fous, plus on rit, plus on fait du bien. Il faut qu'on soit plusieurs pour changer les choses.
Je partage totalement. Je te propose qu'on passe à la dernière partie de cet entretien, donc qui est plus personnel. Je le disais un petit peu en introduction, tu as un parcours qui est complètement atypique par rapport à, on va dire, la très 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 grande majorité des entrepreneurs en France, hein, mais et justement je me posais la question de savoir comment cette richesse d'expérience, tu l'utilisais toi dans ton quotidien de dirigeant d'entreprise aujourd'hui, et comment ça avait pu aussi alimenter ta vision du rôle des entreprises dans la société.
Oui, donc j'ai un passé plutôt associatif ou éducatif ou socio-médical, toutes ces choses se rejoignent. Et dans une structure, donc encore une fois, on va dire corporate, mais avec des grands guillemets, on n'est pas très grand, mais dans une structure donc, d'entreprise, je viens avec ma compréhension des organisations et. Et je crois vraiment que c'est un travail qui est très important pour nous tous de faire aujourd'hui. On voit plus en plus de types de structures hybrides en France. On a l'ESS, on a des sociétés à mission, des B Corp, etc. On comprend de plus en plus que les lignes sont plus floues entre une association ou une entreprise. La seule chose qui les sépare, c'est cette possibilité, en fait, de sortir des dividendes pour d'autres gens, mais le projet doit toujours exister pour lui-même. Et à travers ça, donc, j'amène cette vision de l'importance du projet d'abord, peut-être, et aussi une envie vraiment de nous entourer et de nous associer avec des personnes qui ont envie d'être là. Puisque dans toute ma vie, passer dans des professions comme professeur, comme sage-femme, qui sont vraiment des voies de conviction. On ne fait pas ça pour l'argent, tout le monde sait. Et après, dans ma passée associative, j'ai créé une association quand on habitait en Turquie, notamment. Toutes ces personnes, en fait, ils sont vraiment là puisqu'ils ont envie d'être là. Et je pense que ça serait bien d'amener... Et c'est ce que je fais tous les jours, d'amener plus de ça dans le monde de l'entreprise. Puisque parfois, on a l'impression que c'est... qu'ils sont un petit peu... si ce n'est pas opposé, mais que ces deux mondes, en fait, ne se retrouvent pas souvent dans cette idée.
Chères auditrices, chers auditeurs, petit problème technique sur l'enregistrement de base, ce qui nous a amené, Elisabeth et moi, à reprendre quelques minutes pour la fin de cet épisode, parce que je trouvais que c'était très important de conclure, notamment parce que c'est une question qui était un peu plus personnelle pour Elisabeth. Donc déjà, Elisabeth, merci beaucoup de reprendre un peu de temps avec moi pour conclure de nouveau.
Je t'en prie.
Et donc la question que je t'avais posée, qui a malheureusement été un peu coupée dans l'enregistrement, c'était l'importance que ça semble avoir pour toi d'être à la fois une mère de 5 enfants, comme on l'a dit dans l'épisode, et également une femme entrepreneur. On a l'impression que ces deux dimensions qui sont vraiment très fortes et qui pour certaines femmes peuvent être... elles peuvent chercher à le gommer un petit peu, dire mais ça n'a pas particulièrement d'importance. Mais j'ai l'impression que quand même chez toi, c'est quelque chose que tu veux mettre en avant, que tu veux revendiquer, peut-être même servir un peu de rôle modèle sur ces sujets-là.
Oui, ce qui est compliqué dans l'histoire, c'est je raconte une mini-parenthèse. Je ne sais pas si tu as vu sur Twitter récemment, il a circulé en fait des photos où si on enlevait les hommes, en fait, les femmes étaient très, très seules, principalement dans les lieux, en fait, dans les sphères politiques. Mais c'est vrai que ça interpelle, en fait, de voir des femmes soudainement toutes seules dans une grande salle, ou à trois, où il y avait avant 150 personnes. Et je pense à ça parfois quand je pense au monde des entreprises et à ce concept d'économie qui sépare donc la sphère personnelle et la sphère publique, donc la maison et l'entreprise, et les complications que ça a pu engendrer pour des femmes depuis très 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 longtemps. Moi, j'aime bien le fait d'être simplement moi-même, voilà. D'arriver au travail moi-même, et je dis souvent à nos collaborateurs et à chaque entretien quand on fait des journées de onboarding des collaborateurs chez nous, j'explique toujours que chez nous on arrive en personne complète entre guillemets. On demande à personne de oublier qu'ils sont parents ou de oublier qu'ils sont enfants ou de voilà d'avoir cette séparation aussi dure parfois entre le
entre ce qui sont au travail et ce qui sont en dehors du travail. Je trouve ça un tout petit peu fausse. Voilà. Cela dit, gérer une famille de 5 enfants, c'est similaire à gérer une entreprise. Très similaire. J'en ai peut-être parlé avant, je ne me souviens plus trop. Une des clés de réussite de ces deux choses, c'est d'avoir le bon partenaire, ça c'est sûr. J'ai le bon partenaire en mon mari Nicolas, puisqu'on partage ces deux choses ensemble. Et on a toujours dit à des personnes qui disent « mais c'est pas difficile de travailler avec ton mari ou ta femme, si on gère la famille, cette grande famille, pourquoi pas gérer une entreprise ?» On a vraiment une confiance totale l'un dans l'autre. Et c'est ça qui fait la différence pour nous, même si parfois, oui, on peut amener les choses en tendance à se croiser. J'ai 4 garçons et une fille. Et je raconte de temps en temps à ma fille que ça fait pas très longtemps en France, depuis l'année de ma naissance, je crois, que les femmes ont le droit d'ouvrir des comptes en banque sans la permission de leur mari. Et ça fait même pas encore 100 ans qu'on a le droit de vote en France. Donc, faut aussi... On ne peut pas tout attendre parfois de ce monde. Faut faire de son mieux et faire avec. Et on a le droit d'être déçu, frustré, etc. Mais voilà, on sait comment on aimerait que les choses, de quelle manière on aimerait que les choses changent. Et donc, on va vers l'avant. Mais c'est sûr que d'être seule, quand je pense à ces photos encore des femmes seules, c'est dur. Donc, moi, je dis souvent qu'il ne faut pas oublier de faire ensemble. C'est peut-être une autre chose. J'ai discuté avec une autre personne ce matin sur la différence entre les Français et les Américains, sur la capacité de demander, pas de l'aide, mais, puisque je trouve ça un peu réducteur de dire ça, mais simplement de demander à faire des choses ensemble. En France, j'ai l'impression qu'on n'ose pas demander. Et aux États-Unis, c'est un peu plus facile. Et pour les femmes, ça a toujours été primordial. On sait très bien que c'est très, très difficile de faire tout seul. Et c'est l'inverse de tout ce qu'on va raconter sur l'homme providentiel, les héros, les gens qui font tout seul. Les femmes, on a jamais fait comme ça. Jamais. De tout le temps. Puisque quand on a un tout petit, il faut faire ensemble. C'est super dur de faire tout seul. Donc, voilà mes réflexions sur être femme, être entrepreneur, être maman et être soi-même au travail comme à la maison.
C'est assez complémentaire avec ce que tu disais sur ce côté de travailler ensemble, de créer des coopérations, des partenariats avec d'autres. Donc c'est totalement en ligne avec ce que tu as pu partager précédemment dans l'épisode. Je te propose qu'on conclue cet épisode avec l'instant musical. À la fin de chacun des épisodes, je demande à mon invité son coup de cœur du moment ou un morceau qui lui parle plus particulièrement pour des raisons liées au fonctionnement de l'entreprise, à la mission de l'entreprise ou autre. Qu'est-ce que ce serait pour toi?
Oui, donc le morceau qui me trottait dans la tête le jour où on s'est parlé, c'était l'escalier des pirouettes. Et plus par rapport à notre vie en général, de ces doutes, de ces difficultés, c'est une chanson qui parle quand même du fait de ne pas savoir souvent et de tirailler entre différentes choses. Tirailler entre, voilà, nous qu'on peut tirailler dans une entreprise entre la recherche du profit financier et l'envie de contribuer au bien commun de façon plus large. Et puis surtout, le message dans cette chanson, c'est aussi ce message d'être ensemble, puisqu'on dit que puisqu'on est ensemble, bah, ça va le faire, peu importe. Peu importe en fait le fait que je ne sais pas. Je sais qu'on s'aime. Et voilà. Donc ça c'est le joli message en fait qui me reste de cette chanson.
Encore une fois, hein, ça va très très bien avec tout ce que tu as pu nous partager dans l'épisode. Et vraiment j'espère que cet épisode pourra donner envie un petit peu de creuser toutes ces différentes pistes. que tu as pu expliquer sur la nécessité d'avoir de l'impact avec son entreprise, de travailler avec des partenaires dans lesquels on a confiance, qu'on choisit, avec lesquels on arrive à construire des relations de longue durée. Et surtout, j'espère que cette bonne étoile qui est au-dessus, qui est le nom chapeau un petit peu de ces trois marques, vous guidera Nicolas et toi dans cette aventure et toute l'équipe de Ma Bonne Étoile et des différentes marques pour les prochaines années. En tout cas, un très très grand merci Elisabeth de ton temps de nouveau.
Merci à toi pour l'invitation. Pas de problème.
Pour cet épisode. Un grand merci et puis à bientôt, j'espère.
Oui, à bientôt.
Merci à toutes et à tous de votre écoute. J'espère que ce nouvel épisode de La Machine à Sens vous aura plu. Si c'est le cas, j'ai une petite faveur à vous demander. C'est de me donner quelques étoiles, ça monte jusqu'à 5 sur Apple Podcast ou sur Spotify. Bizarrement, sur Spotify, ça ne marche que sur smartphone. C'est vraiment important pour améliorer le référencement et que d'autres puissent découvrir le podcast. Donc s'il vous plaît, je vous remercie de le faire. Pour ne rien rater des prochains épisodes, le mieux, c'est de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Et si vous avez envie d'échanger sur le sujet des entreprises à mission, éventuellement vous faire accompagner pour le devenir, vous pouvez me retrouver sur la newsletter de La Machine à Sens, machineasens.substack.com ou sur LinkedIn. Je vous remercie de nouveau et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode.